amango ya langbala kweti ma ziaite na ndoti vewa Afrika na ngoi soe kegunati kapati kwa singati na ndoti.
Bonjour à tous, Yakuba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, on s'excuse pour ce générique d'entrée qui n'était pas celui du journal en français. Au sommaire, en cette matinée du mardi 29 octobre, nous sommes à une semaine jour pour jour de l'élection présidentielle américaine. Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats, jettent leur vatou dans la campagne.
Manchester City.
We gotta win the competition for the 21st century. We're not gonna have China beat us in the competition for the 21st century.
I think this is a country that needs religion. It's like the glue that holds it together.
Trump était la nuit dernière à Atlanta, en Géorgie, et Kamala dans le Michigan, dans notre série sur les expatriés américains en Afrique qui s'affairent sur les élections dans leur pays. Nous nous rendrons en Somalie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons au Cameroun où la traque aux faux diplômes dans les universités se poursuit.
La contact de la CONAC, c'est aussi que si vous voyez ce qui se passe et vous n'aimez pas, il faut dénoncer. Il y a la ligne verte 1517 qui est gratuite, il y a le numéro WhatsApp et tout ça. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous êtes complice.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition, juste avant la page des sports de Nanit Talani.
En meeting hier soir à Atlanta, dans notre...
Nous ouvrons donc ce journal par les nouvelles des élections américaines à une semaine d'un scrutin présidentiel incertain entre Kamala Harris et Donald Trump. Les deux candidats jettent leur vatou dans la campagne. Le candidat républicain était la nuit dernière à Atlanta, en Géorgie, et la démocrate Harris dans le Michigan. Michel Joseph.
En meeting hier soir à Atlanta, Donald Trump s'est défendu d'être un nazi, affirmant même être le contraire d'un nazi, après plusieurs jours de polémique, après que son ancien directeur de cabinet, le général John Kelly, l'a accusé de répondre à la définition d'un fasciste. Trump a dit espérer reconquérir la Géorgie, un État clé qu'il avait perdu de quelque 11 000 voix en 2020, et il compte sur l'électorat religieux très puissant dans cet État.
Look, we're going through a lot of problems in our country. If you take a look at the anger, the...
Nous traversons de nombreux problèmes dans notre pays. Si vous regardez la colère, les problèmes que nous avons, ils sont en grande partie moins liés à la religion aujourd'hui qu'il y a 25 ou 50 ans. Les gens disaient que nous étions chrétiens et très religieux, même d'autres confessions dans ce pays, et cela semble aller dans la mauvaise direction. Je pense que plus cela diminue, plus notre pays va mal. Je le pense vraiment. Je pense que ce pays a besoin de la religion. C'est comme le ciment qui le maintient ensemble, et nous n'en avons pas.
De leur côté, la vice-présidente et son colistier Tim Walz vont se rendre cette semaine dans l'ensemble des 7 États-clés les plus disputés. La candidate de 60 ans a commencé hier par le Michigan avec un déplacement axé sur le secteur manufacturier dans cet État des Grands Lacs, berceau de l'industrie automobile.
Ce que vous faites ici sur le terrain prouve que l'investissement dans l'industrie américaine et dans les travailleurs américains peut se faire en même temps, qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une tension entre les deux, que ce travail sera aussi une question de compréhension. Écoutez, nous devons gagner la bataille du 21e siècle. Nous n'allons pas laisser la Chine nous battre dans la compétition pour le 21e siècle.
Kamala Harris, qui a fait de la défense du droit à l'avortement l'une de ses priorités de campagne, va inclure probablement ce thème dans une allocution ce mardi près de la Maison-Blanche. Quant à Donald Trump, il retourne ce mardi en Pennsylvanie, un des États les plus disputés de cette élection.
Plus de 45 millions d'Américains ont déjà voté, parmi eux le président Joe Biden qui a accompli son devoir citoyen dans un bureau de vote de Newcastle, ville de l'État du Delaware. « Je suis fier d'avoir voté pour Kamala Harris et Tim Walz », a écrit le démocrate sur son compte X. Tout comme lui, plusieurs électeurs de Washington DC étaient dans les centres de vote hier pour le premier jour du vote anticipé ici. Alexandrine Holoyon était à la bibliothèque du mémorial de Martin Luther King. Elle a recueilli la réaction du votant Kev Albert juste après. après son vote.
Le processus a été extrêmement facile. Le gouvernement du district de Columbia dispose d'une application que j'utilise pour savoir s'il y avait du monde ou non et combien de temps il fallait attendre. Plus tôt ce matin, l'attente était de 5 minutes et elle a été beaucoup plus rapide.
Pourquoi avez-vous choisi le vote anticipé plutôt que d'attendre le jour officiel de l'élection?
Compte tenu de l'état actuel de notre union, je n'ai pas jugé prudent de voter le mardi 5 et je pense que c'était probablement le moyen le plus sûr de le faire.
De manière générale, que pensez-vous des candidats et de leur programme?
Je pense qu'à l'heure actuelle, la façon dont les républicains ne demandent pas à leurs candidats de rendre compte de la vérité et des faits est inquiétante et suscite l'anxiété et la peur. En tant qu'Afro-Américain, il n'y a pas de programme démocrate ou républicain qui soutienne et mette l'accent sur ce qui est nécessaire pour quelqu'un qui me ressemble. Cela revient donc à voter le moins mauvais des deux, et l'une des choses que le Parti démocrate fait mal, c'est qu'il prend le vote des Afro-Américains, et une fois qu'il est au pouvoir, il a tendance à ne pas donner la priorité à leurs besoins avant tout le reste, ce qui devient un problème, et je pense que c'est là où nous en sommes entre ces deux partis.
Au niveau national, les sondages mettent toujours au coude à coude la candidate démocrate et son rival républicain. Pour une analyse, Mohamed Oumfa joint le politologue Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group.
Il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance vraiment à Kamala Harris pour bien diriger l'économie. Elle s'est fait aussi pas mal d'ennemis parmi la population d'origine musulmane avec ce qui s'est fait à Gaza. D'un autre côté, beaucoup de gens détestent Trump et ne lui font absolument pas confiance. Donc, le pays est extrêmement divisé et je pense qu'effectivement, on ne saura pas jusqu'à la dernière minute qui a une chance de passer.
Alors, nous sommes à une semaine de l'élection. Les candidats vont jeter leur dernière force dans la bataille cette semaine. Quelles pourraient être les stratégies déployées par les candidats? Quel est le message? Quels sont les messages à passer cette semaine pour cette dernière ligne droite selon vous?
Si par exemple Mme Harris veut obtenir des voix dans le Michigan, il faudrait qu'elle fasse des compromis avec ce qui se fait par l'administration Biden sur les problèmes du Moyen-Orient. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas faire trop non plus. Donc ça, c'est assez délicat. Du côté de M. Trump, il faudrait qu'il se calme et qu'il ne parle pas trop fort, etc. Mais ça, c'est presque impossible pour lui de le faire. Ils vont essayer de parler de plus en plus fort, mais peut-être de dire de moins en moins.
Kamala Harris, lorsqu'elle a été investie, lorsque le président Joe Biden a renoncé, il y avait un vent nouveau, il y avait comme un bol d'air dans le Parti démocrate, mais on remarque que ça s'est très vite essoufflé. Comment expliquer cela selon vous?
Le problème qu'elle a, c'est qu'elle a les résultats des 4 dernières années. Bon, il y a eu de très très bonnes choses faites par l'administration Biden, mais il y a aussi des choses beaucoup plus délicates. Ils ont quand même eu beaucoup de succès au point de vue de diminuer l'inflation, mais alors ils ont ce qu'il s'est passé au Moyen-Orient, par exemple, est très très mal vu par la population en général, et ça a du plus et du moins dans son sens. Et du côté Trump, c'est la même chose. La façon dont il parle est absolument insultante pour beaucoup de gens, mais d'un autre côté, il pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de force du côté économique. Il est certain que Kamala Harris n'a pas vraiment réussi à dominer le dialogue économique, si vous voulez, aux États-Unis, et ça la laisse un peu derrière Trump pour le moment.
C'était le politologue Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group. L'ancien président américain Donald Trump, qui se représente à la présidentielle, a été qualifié de fasciste et décrit comme inapte à servir par plusieurs de ses anciens collaborateurs. Son colistier, J.D. Vance, a rejeté dimanche toutes ces accusations. Pendant ce temps, la campagne présidentielle démocrate diffuse des publicités sur la controverse dans les États pivots. C'est un sujet de Véronica Balderas Iglesias de la VOA, récit Lionel Gaïma.
John Kelly a été le chef de cabinet de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche de 2017 à 2019. Dans une récente interview accordée au New York Times, le général 4 étoiles de marine à la retraite s'est vu demander si Trump était fasciste et a répondu en le citant ici. C'est certainement un autoritaire. Il admire les dictateurs, c'est ce qu'il a dit. Il répond donc à la définition générale du fascisme, c'est certain. Trump a réagi à ces accusations sur sa plateforme Truth Social Media en écrivant notamment que, je cite, « John Kelly est un low-life, un mauvais général dont je n'ai plus sollicité les conseils à la Maison-Blanche et je lui ai dit de passer à autre chose ». Dimanche, le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a commenté les remarques de Kelly et de l'ancien chef d'état-major interarmé, Mark Milley, selon lesquelles Trump est un fasciste. Vance a été interviewé dans l'émission Mille de presse de la chaîne NBC.
Les personnes qui ont travaillé le plus étroitement avec lui, la plupart d'entre elles, soutiennent ce ticket. Je pense que Mark Milley et John Kelly sont tous deux d'anciens employés mécontents.
13 anciens collaborateurs de Trump ont toutefois publié une lettre ouverte vendredi soutenant les remarques de John Kelly et avertissant que le candidat républicain à la présidence est inapte à servir. Le sénateur républicain Lindsey Graham n'est pas du tout d'accord.
Je l'ai côtoyé. Je ne pense pas qu'il soit un fasciste. Je pense qu'il a été un président très fort à un moment où nous avions besoin d'un président fort. Je pense qu'il sera un président fort pour remettre ce pays sur les rails.
L'équipe de campagne démocrate de la candidate Kamala Harris a ciblé les électeurs des États pivots en diffusant une publicité qui reprend les propos de John Kelly. Harris elle-même n'a pas hésité à exprimer des préoccupations similaires.
Donald Trump est de plus en plus déséquilibré et peu subtil. Dans un second mandat, des personnes comme John Kelly ne seraient pas là pour servir de garde-fou contre ses propensions et ses actions.
Le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui soutient la candidature de Harris à la Maison-Blanche, a été interrogé dimanche dans l'émission Mille de presse de la chaîne NBC pour savoir s'il pensait que Trump était un fasciste.
Je n'aime pas utiliser ces mots, mais il est clair qu'il a une forte tendance à l'autoritarisme et à saper la démocratie américaine.
La controverse va conclure leur campagne. Trump fera campagne dans les États décisifs plus tard dans la semaine, après un rassemblement ce dimanche au Madison Square Garden de New York. Harris doit se rendre aussi dans tous les États clés au cours des prochains jours. Mardi, elle prononcera une plaidoirie devant les électeurs près du National Mall de Washington, D.C.
Certains Américains d'origine somalienne vivant en Somalie suivent de près les élections américaines en se concentrant sur la politique étrangère et les investissements en Afrique tout en participant au vote par correspondance. Les détails avec Abdulkadir Zouber, récit Rosine Munesero.
Mohamed Aïe Farah dirige la Somali American Network Association, SANA, une organisation qui favorise les liens entre les Américains d'origine somalienne et la Somalie. Il a quitté les États-Unis il y a 10 ans pour retourner en Somalie, mais il reste impliqué dans la politique américaine, se tenant informé des débats politiques en cours dans le pays. Farah décrit la procédure de vote par correspondance comme étant simple.
I casted my vote.
J'ai voté par correspondance. Nous avons utilisé un site web appelé FPCA. Vous remplissez un formulaire, vous le signez et il y a une adresse à laquelle vous l'envoyez. Et vous êtes prêt à partir. C'est l'instruction et les directives que nous avons reçues des ambassades américaines en Somalie et au Kenya. Je l'ai fait il y a un mois et je crois que tout est prêt pour moi.
Everything is set.
Selon M. Farah, la Somalie a été confrontée à des défis en raison des changements intervenus dans la politique étrangère des États-Unis en matière d'aide à la sécurité. S'appuyant sur son expérience en tant qu'Américain d'origine somalienne et sur son rôle au sein de sa communauté, il dit craindre qu'une nouvelle administration ne continue pas à soutenir les efforts de la Somalie en matière de lutte contre le terrorisme.
La politique étrangère en termes de sécurité est une expérience que j'ai eue pendant mon séjour en Afrique ou en Somalie en tant qu'Américain et aussi en tant que président de la Somali American Association. C'est la façon dont le gouvernement somalien a souffert lorsque le soutien à la sécurité sécurité a été réduit par le gouvernement américain. Je me souviens que c'était pendant le mandat de l'ancien président Trump.
Farah a déclaré qu'environ 4000 Américains d'origine somalienne vivent actuellement dans diverses régions de la Somalie et que nombre d'entre eux sont propriétaires d'entreprises, consultants auprès du gouvernement fédéral et employés d'organisations internationales. Bien qu'ils soient à des milliers de kilomètres, les expatriés américains d'origine somalienne jouent également un rôle dans la croissance et la stabilité de la Somalie en jetant un pont entre les deux mondes et façonner l'avenir.
Merci Rosine. Ici se termine donc cette page spéciale consacrée aux élections américaines. Dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous êtes toujours en compagnie de Yacouba Ouédraogo. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, la maire adjointe de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, en proie à un conflit séparatiste, a été enlevée et tuée par des hommes armés. L'élu a été enlevé le 26 octobre à 17h30 dans sa résidence et son corps sans vie a été découvert, baignant dans son sang. Aux premières heures, ce lundi matin, a indiqué la radio nationale, citant un communiqué du préfet local. C'est à Bamenda qu'un journaliste de langue anglaise, Atia Tilarius Azawi, avait été enlevé vendredi dernier. La ville est régulièrement le théâtre de kidnapping et de meurtres depuis le déclenchement de violences séparatistes en 2016. Au Mali, des syndicats ont lancé hier un appel à la grève des personnels de prison à partir de ce mardi jusqu'à ce que soient retrouvés deux de leurs portés disparus. Le commandant Daouda Konaté, responsable d'un syndicat de surveillants de prison, n'a plus donné de nouvelles depuis vendredi. Auparavant, il a dénoncé les conditions dans les prisons maliennes et le sous-effectif pénitentiaire. Un autre syndicaliste, Famoussa Fomba, travaillant comme infirmier à la prison de Bamako, a aussi disparu vendredi, a indiqué son organisation, un syndicat de la justice. En Mauritanie, l'afflux de réfugiés fuyant l'insécurité au Sahel a atteint un seuil critique et intensifie la migration clandestine vers l'Espagne et l'Europe. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre mauritanien de la Défense, Anena Ould Sidi. Selon un récent rapport du HCR, 275 000 réfugiés demandeurs d'asile se trouvent actuellement en Mauritanie. Ils sont concentrés principalement dans le sud-est à la frontière avec le Mali, dont 112 000 enregistrés dans le seul camp de Mbera, saturé, dit l'agence. La majorité viennent du Mali, où ils ont fui l'insécurité et la faim, dit-elle. La France et le Maroc ont conclu des contrats et accords d'investissement dont le montant global atteindra jusqu'à 10 milliards d'euros, a annoncé la présidence française. C'est à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat qui a débuté hier. Ces accords concernent le secteur ferroviaire, les énergies renouvelables dont le Maroc entend devenir un champion, la transition énergétique ou encore la coopération en matière de connectivité énergétique. Il est notamment prévu que le groupe français Egis participe à la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de train à grande vitesse Tanger-Marrakech.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a envoyé environ 10 000 soldats pour s'entraîner en Russie. C'est une affirmation du Pentagone. Cela aura probablement pour conséquence un renforcement des forces russes près de l'Ukraine dans les prochaines semaines, a déclaré la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord. Le président Joe Biden a qualifié ce déploiement de très dangereux. Moscou et Pyongyang ont renforcé leur coopération militaire depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Le Trésor américain a dévoilé hier le cadre limitant les investissements d'entreprises ou d'individus américains dans des sociétés technologiques chinoises de pointe qui prendra effet début janvier. Il s'agit des dispositions initiées par un décret signé en août 2023 par le président Joe Biden au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Les secteurs concernés sont les semi-conducteurs, la résolution accélérée de problèmes complexes informatiques et de l'intelligence artificielle. C'était tout pour l'actualité. À présent, les dossiers du jour. Au Cameroun, une campagne nationale est en cours sur les méfaits des faux diplômes en milieu universitaire. Elle a été initiée par la Commission nationale anticorruption CONAC et implique les universités publiques et privées du pays. La campagne vise à traquer également le phénomène d'achat des notes et le harcèlement des étudiantes de Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Gelontap.
Les étudiants disent avoir déjà entendu parler du réseau de délivrance de faux diplômes en milieu universitaire. David Makit, étudiant en travaux publics.
En fait, j'ai entendu qu'il y a des hommes qui sont vers Bronas là-bas. C'est vers l'université de Yaoundé. Hein, là. Ils fabriquent des faux diplômes. Et on ne sait pas comment ils réussissent pour avoir certains cachets des autorités. C'est-à-dire pour sortir des diplômes presque authentiques.
Rosine Yangombessa est étudiante en deuxième année filière histoire à l'université de Yaoundé 1. Elle affirme que le phénomène de l'achat des notes a aussi pignon sur rue dans les campus.
J'ai suivi par des supérieurs que les faux diplômes sont donnés par des personnes qui viennent de l'extérieur pour influencer, pour faciliter la vie aux étudiants. Et c'est un phénomène qui est régulier à l'université. Ils livrent encore d'autres de l'argent.
Le 17 octobre dernier, le recteur de l'université de Douala a suspendu un responsable de la dite institution. Il a été accusé de marchander les notes entre 20 000 et 40 000 francs CFA, en plus de harceler les jeunes étudiantes. Catherine Barga, étudiante en Master 2 à l'université de Yaoundé, un témoigne.
Ma petite sœur qui était venue me raconter que sa camarade se faisait harceler par un professeur, qu'il doit avoir les rapports avec elle pour lui mettre la note qu'elle a eu pendant les 16, n'est-ce pas? Elle avait eu 77 sur 100 et il lui a mis un zéro. Il a appelé dans son bureau que bon, si c'est que tu veux que tu mettes ta vraie note, tu dois coucher avec moi.
La Commission nationale anticorruption a lancé une campagne de sensibilisation des jeunes aux méfaits de faux diplômes. Irène Mourucane, chef de la division de la communication et de la prévention à la CONAC.
Les plaques seront là en permanent et on a prévu que ces plaques peuvent durer au moins 5 ans. Donc quand c'est au campus, à chaque fois que vous passez, vous regardez. Et un autre aspect là, il y a les contacts de la CONAC sur ces plaques. Et la contact de la CONAC, c'est aussi que si vous voyez ce qui se passe et que vous n'aimez pas, il faut dénoncer. Il y a la ligne vers 15-17 qui est gratuite, il y a les numéros WhatsApp et tout ça. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous êtes complice.
Pour aboiter le pas à la Commission nationale anticorruption, certains responsables des universités publiques et des grandes écoles de formation ont autorisé la mise sur pied d'un club d'intégrité dirigé par les étudiants. Ghislain Onanabeyala, président du club intégrité de l'université de Yaoundé 1.
Nous faisons des descentes au niveau des amphithéâtres. Nous organisons un certain nombre de conférences pour entretenir nos condisciples sur les phénomènes y afférents, notamment les faux diplômes.
1312 faux diplômes ont été détectés dans le processus de recrutement de jeunes soldats et gendarmes. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, les travailleuses du sexe sont dans le collimateur de la police qui, à Cotonou et dans certaines grandes villes, n'hésite pas à procéder à leur arrestation. Présentées au procureur, elles font face à des chefs d'accusation d'atteinte à la pudeur, de racolage pour certaines, de proxénétisme, de violence et de voies de fête pour d'autres. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Avec la cherté de la vie, le manque d'emploi décent, l'extrémisme violent qui sévit dans la sous-région, la prostitution a pris de l'ampleur dans les principales villes du Bénin. Déjà un an que Nelly ne fait plus les trottoirs. Elle y avait débuté avec des amis qui y sont toujours.
Dans la vie actuelle, il y a trop de situations.
C'est le manque de moyens financiers et surtout la mauvaise fréquentation. Mis à part ça, il y a le fait que les charges de la famille reposent sur cette personne-là, sur cette fille.
Des trottoirs, la prostitution étend ses tentacules sur les réseaux sociaux. Cette forme fait une telle expansion dans les universités que les enseignants s'en désolent.
Elles partagent un lien pour lequel ceux qui sont intéressés cliquent pour pouvoir bénéficier de leur service.
Alors ça, ce n'est pas une bonne chose. Sérieusement, la femme doit être respectée. Ça, c'est la dépravation.
Pasteur Edgar Guidibi pense pour sa part que le Bénin est en pleine panne des valeurs morales.
La débauche, l'impudicité, le vulgaire s'est installé, s'est démocratisé. On ne s'en cache même plus. L'abondance de mauvais exemples est là et le scandale est devenu banal.
Angela Peja est journaliste. Elle a souvent travaillé à sensibiliser les travailleuses de sexe sur les dangers qu'elles courent dans les rues et dans le multipartenariat sexuel.
Souvent, c'est des femmes battues, c'est des femmes à qui on a promis mons et merveilles, qui ont voyagé, quitté leur famille, et là, elles se rendent compte que c'était des proxénètes. Vous savez qu'ici, dans notre pays, il y a des associations qui utilisent les filles comme des prostituées.
Mais le socio- sociologue Amel Betebo insiste, de nombreuses filles sont devenues prostituées par cupidité.
Selon les enquêtes que nous avons menées en tant que sociologue, le manque parfois de soutien financier, de soutien en matière d'échange de conseils, de collaboration parentale, amène parfois certaines filles à pouvoir adopter des comportements qui sont vraiment désastreux.
Alain Orunla est le préfet du littoral. Il soutient qu'il faut combattre la prostitution jusque dans ses derniers retranchements.
L'ambition, c'est de décourager les réseaux de proxénétisme et ceci passe évidemment par l'hostilité à afficher vis-à-vis de ces travailleuses du sexe.
Même si la prostitution reste un phénomène décrié par tous, elle n'est pas pour autant interdite au Bénin. En effet, le législateur béninois ne la condamne pas expressément.
La prostitution forcée, la prostitution d'enfants, l'acte de prosélytisme. Donc ce sont ces trois aspects de la chose qui sont à l'état actuel de notre code pénal réprimés par la loi. La prostitution en elle-même, le code, la loi ne l'ayant pas interdit.
Pour lutter contre le travail du sexe au Bénin, l'État doit développer des politiques favorisant la création d'emplois décents et stables, notamment pour les jeunes filles et les femmes. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Sans plus tarder, les nouvelles sportives avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Nous commençons bien évidemment avec cette nouvelle qui fait parler depuis hier soir, la remise du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris. L'Espagnol Rodri succède à Lionel Messi comme meilleur joueur de la planète.
Le milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne, Rodrigo Hernández Carcante, alias Rodri ou Rodrigo, a remporté le Ballon d'Or 2024 devant l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius, dont le club a boycotté la cérémonie. Vainqueur et meilleur joueur de l'Euro 2024 avec la Roja, champion d'Angleterre avec les Citizens, Rodri reçoit pour la première fois de sa carrière cette prestigieuse récompense individuelle. Dans la catégorie féminine, l'Espagnole Aitana Bonmati a été élue meilleure joueuse, conservant son titre après avoir brillé entre une Coupe du Monde et trois Ligues des Champions. L'Italien Carlo Ancelotti a été désigné meilleur entraîneur masculin de l'année malgré son absence lors de la cérémonie. Du côté féminin, l'Anglaise Emma Hayes, coach de l'équipe des États-Unis et de Chelsea, a été récompensée. Le trophée Copa, décerné au meilleur jeune joueur, a été remis à l'Espagnol Lamine Yalai du FC Barcelone. À 17 ans seulement, il a été un acteur clé du sacre de l'Espagne à l'Euro cet été. Enfin, l'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé partagent le titre de meilleur buteur, tandis que le gardien argentin Emiliano Martinez a été reconnu comme le meilleur gardien de but. Le Real Madrid a été élu club de l'année chez les hommes, tandis que le FC Barcelone a été récompensé en tant que meilleur club féminin.
Sur le continent, les Comores et la Zambie s'affrontent ce mardi pour tenter de se qualifier pour les demi-finales du championnat féminin COSAFA 2024.
Les Comoriennes affrontent les Zambiennes grâce à leur victoire historique 3-1 contre l'Angola dimanche. De son côté, le Zimbabwe avait vaincu le Lesotho 3-0. Le Zimbabwe attend maintenant le résultat du match entre le Lesotho et le Mozambique pour savoir s'il se qualifiera pour la phase à élimination directe du championnat féminin COSAFA 2024.
Et cette affaire qui se poursuit, la Fédération libyenne engage un avocat tunisien pour contester la décision de la CAF.
Cette fédération a fait appel de la décision de la CAF qui a attribué une victoire 3-0 au Nigeria dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette décision fait suite à un litige concernant un match dont le déplacement des Super Eagles à Benghazi prévu le 15 octobre a été perturbé par des problèmes logistiques. La CAF a déclaré la Libye forfait et a infligé une amende de $50,000.
Merci Nanit. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouedraogo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.